Les élections provinciales n'auront pas lieu en 2024, annonce faite par le président de la République qui a reçu hier soir pour nous les quatre parlementaires calédoniens à l'Élysée. KNS engage le projet de licenciement collectif pour motif économique. Jusqu'à fin août, la direction indique qu'elle rencontrera les 12 000 salariés concernés par ce plan. Opération de sécurisation à Tuban, la police nationale a neutralisé trois appartements qui étaient dégradés et squattés. Paris sous très haute surveillance à quelques heures maintenant de la cérémonie d'ouverture des JO. 77 000 policiers, gendarmes et militaires sont déployés sur le terrain, du jamais vu. Côté compétition, l'équipe de France de rugby à 7 messieurs qualifiés pour les demi-finales du tournoi. En football et en handball, les équipes de France féminines ont remporté leur premier match de poule. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Avant de développer tous ces titres, regardons le programme du magazine Transparence que l'on retrouve dès la fin de ce journal. Elisabeth Noir, votre invité sera aujourd'hui Yoann Lecourieux.
Oui, c'est le maire de Dambeillère, Yoann Lecourieux, qui sera l'invité du magazine Transparence. Nous reviendrons avec lui sur la situation de sa commune qui a été très durement touchée par l'insurrection que connaît la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai. Alors quel bilan fait-il de la situation? Comment explique-t-il ce déchaînement de violence? Comment envisage-t-il aujourd'hui la reconstruction? Et puis le vivre ensemble est-il encore possible? Ce sont quelques-unes des questions que nous lui poserons. On se retrouve d'ici une demi-heure en compagnie de Yoann Lecourieux.
Et on vous retrouve aussi à 16h45, Elisabeth, pour le Club Politique Radio Rythme Bleu.
Au sommaire du Club Politique, nous en avons l'habitude. Maintenant, un point de situation sur le terrain. Nous reviendrons sur l'accalmie certaine que l'on constate malgré la poursuite d'exactions cette semaine encore, notamment le saccage du mémorial d'Ataï. Nous tenterons aussi de décrypter la rencontre entre Emmanuel Macron et les quatre parlementaires calédoniens. Et puis nous évoquerons la visite annoncée de Marie Guévenoux. Nous reviendrons également sur la position sur la Calédonie du 10e sommet des dirigeants de l'Alliance du Pacifique qui était réunie à Tokyo. Et nous nous interrogerons enfin sur la prochaine Assemblée Générale de la CCAT, le club politique qui débute cet après-midi à 16h45 et qui est rediffusé le samedi matin à partir de 11h.
C'est une rencontre inédite qui a eu lieu hier soir pour nous à Paris, où Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée les quatre parlementaires calédoniens, les députés Nicolas Metzdorf et Emmanuel Tchibaou, et les sénateurs Georges Naturel et Robert Rowy. Une rencontre d'une demi-heure dans un emploi du temps particulièrement chargé pour le chef de l'État. On en retient notamment le report des élections provinciales, l'invitation à Paris des partenaires politiques pour une reprise des discussions dès le mois de septembre et une réponse de l'État aux urgences sécuritaires, économiques et sanitaires. Le député Nicolas Metzdorf nous précise quels sont les points forts de ce rendez-vous.
Le dossier calédonien est dirigé depuis l'Élysée. Aujourd'hui, clairement, le chef de l'État nous a affirmé qu'il reprenait la main sur le dossier puisqu'il concernait pour lui une question régalienne de souveraineté de la France. Donc il veut piloter lui-même le dossier. La deuxième chose, c'est qu'il a prévu d'inviter les partenaires calédoniens en septembre pour une reprise des négociations et du dialogue sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. La troisième chose, c'est qu'il nous dit qu'il veut décaler les élections provinciales à 2025 et qu'il présentera une loi organique en ce sens, puisqu'il considère qu'il faut donner du temps à la discussion et que le temps n'est pas aux campagnes électorales en Nouvelle-Calédonie. Et il nous a fait un point final sur les urgences sécuritaires et économiques et sanitaires, qu'il allait garder le nombre de forces de l'ordre présentes pendant les JO en Nouvelle-Calédonie et qu'elles allaient être renforcées dès la fin des JO, que la réserve sanitaire serait mobilisé et qu'il allait faire un point avec Bruno Le Maire à Bercy pour que les aides soient mieux orientées.
Sur la demande précise que vous aviez faite concernant la transformation des prêts en subventions, il n'y a pas encore de réponse?
C'est dans les tuyaux, il y a une volonté en tout cas, surtout une compréhension du chef de l'État sur l'urgence économique de la situation. Et il sait très bien qu'aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie ne peut pas faire face seule à la crise économique. Donc c'était important pour nous d'être très pédagogue sur le sujet. Donc à chaque fois on a eu une écoute. Alors bien sûr, pour l'instant pas de promesses, mais en tout cas une volonté d'améliorer les choses.
Comment est-ce que vous arrivez à parler d'une même voix, les quatre parlementaires, alors que deux sont indépendantistes et deux ne le sont pas?
On parle d'une même voix sur l'urgence économique, sociale et même sécuritaire. On est d'accord là-dessus. Ensuite, on est d'accord sur une reprise du dialogue nécessaire et on demande au chef de l'État un calendrier sur lequel on pourrait se mettre d'accord, nous permettre de nous réunir et de continuer les négociations. Donc on va dire que sur les urgences calédoniennes, on est d'accord sur le fond et sur les discussions institutionnelles, on est d'accord pour remettre un calendrier et de la forme. On n'a pas, bien sûr, envisagé les questions de fond. J'ai redit ma conviction pour la Nouvelle-Calédonie. Les indépendantistes ont redit la leur. Mais l'important pour nous, c'était que le dossier soit repris en main et surtout qu'un tempo soit donné et qu'on crée les conditions de la négociation parce qu'aujourd'hui, c'était quand même reparti en stand-by.
C'est le sénateur Georges Naturel qui avait pris l'initiative de ce rendez-vous collégial des parlementaires calédoniens dans le contexte particulier que connaît le territoire.
C'est important, je pense, que les parlementaires, dans cette période que nous vivons en Calédonie, puissent se retrouver devant le président de la République pour aborder des sujets très concrets, ponctuels aujourd'hui, mais surtout peut-être dans une perspective plus longue, quoi. D'abord, on lui a dit, et on est tous d'accord là-dessus, c'est qu'il faut à tout prix qu'on retrouve la liberté de circulation et que la sécurité soit un des premiers points. Alors, le président de la République, il met les moyens en termes de force de l'ordre, c'est sûr. Et puis, il y a notre rôle, en tant qu'élu calédonien, quel qu'en soit, d'essayer d'apaiser dans nos discours et puis peut-être d'aller discuter sur le terrain pour faire comprendre aux uns et aux autres que ce n'est pas sur les barrages qu'on pourra régler le problème politique de la Nouvelle-Calédonie.
Rendez-vous à l'Élysée que le député indépendantiste Emmanuel Tchibaou estime pour sa part utile pour évoquer les priorités de la Calédonie.
Nous, on a tenu à ce qu'on fasse un rendez-vous à 4 parce que c'était important que l'ensemble des parlementaires soient présents et puis fassent front sur la situation qui est assez dramatique au pays, tant sur le plan économique que social. Et après, rappeler les obligations que l'on a au vu de notre mandat et rappeler celles allemandes de l'État dans l'effort de solidarité nationale. Donc c'est ce qui a présidé à notre demande de rendez-vous que le président a bien voulu accepter au vu de son planning chargé.
Emmanuel Tchibaou qui tient à préciser que Robert Rowy et lui-même ne sont pas mandatés par les indépendantistes pour amener les discussions, mais seulement pour engager des perspectives de réouverture et que c'est le FLNKS qui désignera ses émissaires et précisera la feuille de route sur laquelle ils iront aux discussions. En attendant, le sénateur indépendantiste Robert Rowy estime qu'une telle initiative a permis de mettre les choses sur la table.
C'est une prise de contact pour examiner la situation d'abord, les urgences, et puis ensuite reprendre contact avec l'État, parce que c'est le partenaire principal dans ce qui se passe au pays. On a pris nos responsabilités, nous, en tant que parlementaires, pour parler, parce qu'on va parler du même pays. Au lieu que chacun aille, chacun de son côté, il vaut mieux qu'on discute, qu'on met ensemble les choses sur la table, et c'est ce qu'on a fait ce matin.
Des propos recueillis hier soir par Elisabeth Noir. Ces annonces suscitent évidemment un certain nombre de réactions en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes en ligne avec Sonia Bakès, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'accepter d'être en direct dans ce journal pour revenir sur ces annonces qui ont été faites hier soir, notamment le report des élections qui n'auront pas lieu en 2024. Est-ce que c'est une surprise pour vous ?
Non, c'était inévitable pour des raisons de sécurité. Je ne vois pas comment on pouvait imposer aux Calédoniens une nouvelle campagne électorale vu les conditions dans lesquelles se sont passées celles des législatives, d'une part, et d'autre part... Si les élections avaient lieu en fin d'année, elles avaient lieu avec un corps électoral dont le Conseil d'État a considéré qu'il était illégal. Donc le report des élections et la volonté du président de la République de prendre en main directement le dossier en nous remettant autour de la table dès le mois de septembre, ça augure plutôt de bonnes perspectives pour trouver un équilibre qui permette de tenir les élections dans de bonnes conditions.
Alors ça donne un peu de temps et il y a notamment ce rendez-vous a priori prévu à Paris début septembre pour la reprise des discussions. Le timing est le bon selon vous ?
Bah, le plus tôt sera le mieux. Hein. Tout le monde attend aujourd'hui des perspectives, tout le monde attend de savoir pour s'engager dans de la reconstruction, dans des perspectives d'avenir, attend de savoir ce qui va se passer politiquement. Donc je pense que le plus tôt sera le mieux. On comprend très bien les difficultés qu'il y a à Paris avec l'absence de gouvernement. Mais maintenant que le président de la République a indiqué que c'était lui qui prendrait le dossier en main, ça permet de se projeter. Et le mois de septembre, c'est dans un mois et demi. Ça permet de préparer les choses au mieux pour que ces discussions se fassent avec la volonté pour chacun de trouver un accord de paix.
Sonia Bakès, merci beaucoup d'avoir réagi en direct à ces annonces hier soir depuis l'Élysée.
Merci.
Merci beaucoup. Et donc, autre réaction à ces annonces, celle de Virginie Rufnak, elle est chef du groupe Rassemblement au Congrès.
Je ne vois pas, dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui de crise économique, de crise sociale, et aussi de contexte d'élection que nous venons de tenir, nous avons fait un recours, nous, au Conseil constitutionnel sur la tenue des législatives, qui pour nous ne sont pas tenues dans des conditions de démocratie normale. Donc, dans ce contexte, évidemment, nous nous demandions à ce que ces élections provinciales puissent pas se tenir avant la fin de l'année, comme il était prévu initialement, d'autant que pour nous, elles ne peuvent se tenir sur un corps électoral gelé. C'est le droit qui le dit, donc il va falloir rediscuter de tous ces sujets. Il faut absolument qu'il y ait une reprise en main politique des discussions sur le sujet calédonien. On le voit bien, certains se sont retirés des discussions pour laisser finalement faire le chaos dans la rue. Et ça n'est jamais bon, tout le monde devient victime de cette situation, donc il faut une sortie politique. C'est toujours ainsi que nous en sommes sortis et que nous avons pu poser des bases solides et saines pour notre territoire.
Virginie Rufnak, chef du groupe Rassemblement au Congrès.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Approuvez-vous le report à 2025 des prochaines élections provinciales? Si vous l'approuvez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, 99% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent choqués par la présence de Michael Forest à la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques de Paris, alors qu'il était la semaine dernière à Bakou pour le congrès des colonies françaises organisé par l'Azerbaïdjan. Ils ne sont que 1% à dire que cela ne les choque pas. Il est 11h41, une première pause dans ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie, et notamment KNS qui engage le projet de licenciement collectif pour motif économique.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu.
Derrière nos agents, des clients comme vous, au service de la même exigence. Rendez-vous sur notre nouveau site office.opt.nc. OPT, le monde à portée de main.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
KNS engage donc le projet de licenciement collectif pour motif économique. L'industriel affirme que trois groupes continuent de montrer un intérêt pour reprendre l'usine du Nord. Toutefois, KNS ne dispose d'aucune offre finalisée ni de visibilité sur le financement des opérations. La recherche d'un repreneur se poursuit, mais KNS indique qu'au 31 août, la totalité des contrats des salariés de Cognan-Bonnickel pourra être rompue, à l'exception d'une équipe d'une cinquantaine de personnes nécessaires au maintien du site en veille à froid. Jusqu'à fin août, la direction indique qu'elle rencontrera les 12 000 salariés concernés par ce plan. Et puis parmi les industries minières touchées par la crise, il y a aussi Eramet qui communique sur la situation de la SLN, Nicolas Legrand.
Oui, à Doniambo, la production minière s'est établie à 1,4 mégatonnes humides au premier semestre 2024, soit une baisse de 51% par rapport au premier semestre 2023, compte tenu bien entendu des conditions d'exploitation extrêmement difficiles. Eramet rappelle que depuis les émeutes, la production est totalement à l'arrêt et que la SLN a subi d'importants dégâts sur ses installations, notamment sur les sites de Thio et de Kouaoua. En conséquence, les exports de minerais et de nickel de la SLN ont chuté de 68% par rapport à 2023. La production de ferro-nickel est également en baisse de 14%. La baisse des volumes de ferro-nickel et des exportations de minerais ainsi qu'un effet de prix défavorable ont été en grande partie compensés par un meilleur contrôle des coûts ainsi qu'une baisse des prix de l'énergie. En conséquence, la SLN a généré un free cash flow négatif à hauteur de moins 139 millions d'euros. C'est sur le semestre, soit 17 milliards de francs. En Nouvelle-Calédonie, la SLN continue à faire face à des défis majeurs, exacerbés par les événements en cours depuis le mois de mai, écrit Eramet dans ce communiqué. Et sa situation financière est aujourd'hui extrêmement critique. L'activité de la majorité des sites miniers est suspendue et l'usine de Doniambo tourne à puissance minimale technique afin de préserver l'intégrité des installations industrielles conformément aux procédures en vigueur. Eramet réitère enfin sa décision de ne pas apporter de nouveaux financements à la SLN tout en poursuivant son soutien opérationnel.
La justice continue à œuvrer de manière déterminée. C'est ce que nous a dit le procureur de la République, qui était notre invité ce matin à 7h30. Yves Dupin a détaillé les chiffres de l'activité judiciaire depuis le 12 mai.
L'institution judiciaire est toujours en action et en action particulièrement soutenue. Depuis le 12 mai, nous dénombrons 1748 mesures de garde à vue, dont 521 pour des atteintes aux forces de l'ordre, 1067 pour des atteintes aux biens. Ces procédures ont conduit à 361 déferments au parquet, ce qui est beaucoup, avec 213 comparutions immédiates, 87 plaidés coupables sur déferment, et tout ceci conduit à 160 incarcérations depuis le 12 mai, uniquement sur ce contentieux des exactions. 482 convocations en justice, 378 mesures alternatives pour des faits d'une gravité relative. Donc vous voyez, oui, nous œuvrons et nous continuons à œuvrer de manière très déterminée.
Le procureur a également indiqué que deux cellules de lutte contre la cybercriminalité travaillaient à lutter contre les rumeurs et accusations mensongères sur les réseaux sociaux. Il indiquait qu'une personne a été condamnée hier pour menace de mort sur le haut-commissaire. Un auteur de menace à l'encontre d'élus calédoniens a également été identifié dans l'est de la métropole. Yves Dupin a également évoqué les propos tenus par certains élus indépendantistes qui demandent son renvoi du territoire.
Je crois que Mme Oumouni fait une erreur grossière. En Azerbaïdjan, un procureur de la République peut sans doute être révoqué dans la minute par le fait du prince pour mieux servir les intérêts des copains ou des coquins. Mais en France, c'est différent. Nous avons un régime institutionnel qui garantit d'abord la séparation des pouvoirs. Le Conseil supérieur de la magistrature veille justement à l'indépendance de la magistrature. Et donc, le pouvoir exécutif ne peut pas se permettre de révoquer un procureur de la République, en tout cas dans la République française. Pour Mme Oumouni et pour d'autres, mon mandat, qui est de 7 ans pour les chefs de juridiction, se termine le 27 février 2027. Et puis je peux même leur dire que j'ai plutôt pour ambition de continuer à servir la justice en Nouvelle-Calédonie. Donc il faudra patienter.
D'autre part, l'enquête diligentée par le parquet à l'encontre des commanditaires présumés. Le procureur de la République a rappelé que 13 personnes étaient mises en examen. L'enquête est confiée à 2 magistrats instructeurs. Il a également affirmé que ceux qui ont participé au congrès des colonies françaises organisé à Bakou, notamment Michael Forest, devront assumer leurs responsabilités après les déclarations qu'ils ont pu faire lors de ce déplacement. Sur le terrain à Nouméa, la police nationale a effectué une opération de neutralisation d'appartements. C'était ce matin dans le quartier de Tuban, Léana Colombo.
Ces 3 derniers jours, les effectifs de la direction territoriale de la police nationale, ou DTPN, ont sécurisé 3 appartements qui étaient effectivement dégradés et squattés. Les précisions du commissaire divisionnaire Sébastien Abadi.
Depuis le début des émeutes, les appartements ont été dégradés, certains pillés et squattés, notamment sur le secteur de Tuban. Donc en lien avec le bailleur ou les locataires, nous avons pu mettre en place des opérations de sécurisation afin de récupérer ces lieux et qu'il n'y ait plus d'exactions ou de dégradations qui soient commises. Il est nécessaire d'avoir une présence de policiers intrusive afin de permettre à ce que des ouvriers et des artisans puissent intervenir et poser des matériaux de sécurisation, des planches de bois, de métal, de LCD, afin que ces appartements ne soient pas à nouveau dégradés et squattés. Donc il est nécessaire effectivement d'avoir du monde sur le terrain. Il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de blessés et il n'y a pas eu d'interpellés. Les appartements récupérés, si je peux dire, étaient vides au moment où nous sommes intervenus.
Plusieurs interventions de ce type ont déjà eu lieu dans d'autres quartiers et seront amenées à être renouvelées, explique le commissaire Abadi.
Le secteur de Tuban, c'est la première opération, mais le but est évidemment de les poursuivre, de les renouveler. Nous l'avons déjà fait sur un autre secteur, notamment à la Vallée du Tir, sur un cabinet médical. L'objectif, c'est que ces lieux qui ont été dégradés et saccagés puissent, à court et moyen terme, retrouver leur vocation première et être restitués aux personnes qui les occupent. Il y a beaucoup de quartiers qui sont concernés. Ça va dépendre aussi des travaux qu'on va mener et qu'on mène déjà en lien avec les collectivités locales, avec les bailleurs aussi, pour identifier les lieux et afin de pouvoir mener des opérations constructives. Quand je dis constructives, c'est qu'en fait, il est important de pouvoir sécuriser ces lieux de manière pérenne pour éviter qu'ils soient à nouveau dégradés ou squattés, voire incendiés.
Dans le reste des communes, au Mont-d'Or, une reconstitution de scène de crime pour l'assassinat du jeune gendarme tué au début des émeutes est en cours. La route est donc bloquée depuis ce matin au pont de la Coulée. Elle est également à Saint-Louis jusqu'à nouvel ordre. Concernant les rotations entre Nouméa et le Mont-d'Or, le Maridé n'assurait pas ses rotations ce matin en raison d'un problème technique. Son service reprendra normalement cet après-midi. La municipalité rappelle que le service maritime risque d'être perturbé en raison des conditions météorologiques défavorables. Et puis en Brousse, à Thiot, l'accueil des patients insuffisants rénaux par l'ATIR est pour le moment suspendu. Une décision prise après la fermeture du CMS de la commune et l'impossibilité d'acheminer par la route les médicaments sur le village. Dans un communiqué, l'ATIR déclare que les patients concernés ont été informés de cette décision et qu'une solution temporaire a été trouvée.
Paris sous très haute surveillance. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques a lieu dans moins de 24 heures. On en parle dans la page consacrée à l'actualité en métropole dans un instant.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
professionnels. Peugeot est plus que jamais à vos côtés. Jusqu'au 4 août, bénéficiez d'offres exceptionnelles sur nos véhicules utilitaires. Le Peugeot Partner à partir d'un 1 400 000 francs hors taxes. Et le Peugeot Expert à partir de 2 millions hors taxes seulement. Partner ou Expert, les véhicules utilitaires adaptés à vos besoins. Rendez-vous dès maintenant au showroom Peugeot au village automobile PK4. Offre réservée aux professionnels éligibles à la défiscalisation sous réserve de validation du dossier par le cabinet Interinvest Outre-mer. Plus d'informations et conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Peugeot.
Vous n'avez pas le temps? Vous avez envie de manger sain et équilibré? La Niçoise vous accompagne. Commandez, c'est livré. Plusieurs formules adaptées à tous les budgets à partir de 750 francs. Plus d'infos sur notre site et sur Facebook. La Niçoise, votre service de gamelle, Vallée des Colons.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actu nationale et internationale, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Et d'abord, l'actualité en métropole centrée sur un seul sujet, les Jeux Olympiques et la cérémonie d'ouverture qui aura lieu demain matin pour nous à partir de 5h. La capitale sera paralysée pour cet événement suivi sur la planète entière. Aucun avion ne pourra décoller ou atterrir pendant la cérémonie. Les trains ne circuleront pas non plus et les axes routiers, notamment le périphérique, seront aussi fermés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a confirmé qu'un dispositif exceptionnel de forces de l'ordre allait être déployé.
Il y aura à Paris 45 000 policiers et gendarmes mobilisés. Dans une journée normale de Jeux Olympiques à Paris, ce sera 30 000, qui vont permettre à la fois la sécurisation de la cérémonie d'ouverture en tant que telle. Pour la première fois dans l'histoire du ministère de l'Intérieur, les trois forces spéciales de notre ministère, la BRI, le RAID, le GIGN, plus de 600 de ces forces spéciales seront présentes à Paris sur le linéaire de la Seine, se sont partagées les responsabilités, avec évidemment un désir très fort de protection. Nous avons aussi évidemment dans la sécurité sur la lutte anti-drone, qui est notre menace sans doute la plus actuelle. Donc c'est 45 000 policiers et gendarmes qui seront rien qu'à Paris, et il y a à peu près 80 000 policiers et gendarmes qui seront sur le reste du territoire national. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais eu autant de forces de l'ordre en même temps sur le territoire national.
Ces derniers jours, plusieurs tentatives d'attentats ont été déjouées. Deux jeunes ont été arrêtés en Gironde et en Belgique. Un groupe de 7 personnes soupçonnées de vouloir s'en prendre aux JO ont été interpellées. Laura van der Lerberg pour Europe 1.
Il s'agit d'individus originaires pour la plupart d'Asie centrale, sympathisants de l'État islamique au Khorasan. Ils sont soupçonnés de participation aux activités d'un groupe terroriste, de financement de terrorisme et de préparation d'attentats terroristes. D'après le parquet fédéral, leur cible n'est pas connue, mais selon Claude Moniquet, expert en terrorisme, ces perquisitions sont liées aux Jeux Olympiques.
Il y a un contexte général qui était connu, qui pousse plutôt vers un lien avec les Jeux Olympiques. Maintenant, reste à déterminer quel était le niveau de préparation de ces plans et quelles étaient les cibles précises de ces plans. Est-ce que c'était la cérémonie d'ouverture? Est-ce que c'était une compétition particulière?
Pour l'instant, le parquet belge exclut tout lien avec les Jeux Olympiques. Il ne communique aucune autre information dans l'intérêt, je cite, de l'enquête. Mais ces perquisitions s'inscrivent dans une opération européenne coordonnée entre plusieurs autorités judiciaires et de renseignement. Les auditions des suspects pourraient donc déboucher sur de nouvelles perquisitions partout en Europe.
La sécurité au cœur des JO, mais aussi les grandes manœuvres diplomatiques. Emmanuel et Brigitte Macron ont organisé tôt ce matin pour nous une grande réception privée sous la pyramide du Louvre en présence de chefs d'État, de sportifs ou de grands patrons. Demain, c'est à l'Élysée que sont conviés une soixantaine de chefs d'État ou leurs représentants qui assisteront ensuite à la cérémonie d'ouverture le long de la Seine. Un grand titre dans l'actualité à l'étranger, la visite de Benjamin Netanyahou à Washington. La situation à Gaza sera évidemment au centre des différentes rencontres qu'il va avoir avec le président Joe Biden et son administration. Chloé Lagadou.
Benjamin Netanyahou est aux États-Unis pour s'assurer du soutien du président américain malgré leurs relations détériorées, explique Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions européennes et internationales.
Joe Biden ne s'entend pas particulièrement avec Netanyahou. Netanyahou est critiqué par une partie de la communauté juive aux États-Unis. Donc même si le soutien des États-Unis reste indéfectible, il n'en demeure pas moins qu'il y a des divergences sur Gaza et l'après-guerre.
Une rencontre donc aux enjeux cruciaux, notamment concernant les négociations sur Gaza.
L'objectif, c'est de savoir que fera le Premier ministre après cette guerre. Est-ce qu'il y aura un accord? Est-ce qu'il va se retirer? Comment va-t-on gouverner Gaza? Est-ce que l'autorité palestinienne pourra continuer à gouverner? Ce sont toutes ces questions que doit aborder le Premier ministre avec le président américain.
Benjamin Netanyahou rencontrera Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis et désormais candidate démocrate à la Maison-Blanche plus tard dans la soirée. Et demain, c'est avec Donald Trump que le Premier ministre israélien s'entretiendra.
Il est 11h55, une dernière pause dans ce journal avant une page complète consacrée aux Jeux Olympiques. On retrouve ensuite le magazine Transparence.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, première radio d'information.
La dernière partie de votre journal avec le sport. Et avant de retrouver Jean-François Bodin, on fait un petit coucou à notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Une page sport 100% JO. Et d'abord, cette très bonne nouvelle en rugby à 7, Léo Fichou. Après un début de tournoi plutôt poussif et une défaite, notamment contre les Fidji lors du dernier match de poule, les Bleus se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi olympique.
Et oui, ils se sont libérés au meilleur des moments ce matin face à l'Argentine. C'est une équipe de France métamorphosée qui est apparue sur la pelouse du Stade de France, marquant 3 essais en 3 minutes. À la pause, les joueurs de Jérôme Daré menaient 21-0. Mais dans une fin de match crispante où les Argentins sont revenus à 21-14. C'est finalement Antoine Dupont qui a délivré les tricolores grâce à un essai de Filou. Score final 26-14. Paulin Riva, le capitaine des Bleus, est fier de l'état d'esprit de ses coéquipiers.
Ce que je retiens, c'est l'état d'esprit des mecs et cette remise en question perpétuelle, cette analyse des équipes adverses, cette faculté à se résilier dans les moments durs. Et là, ce qui était vachement intéressant, c'est qu'on a enfoncé le clou d'entrée. 21-0, je crois, à la mi-temps. On savait qu'ils pouvaient revenir. On n'a rien lâché, on a essayé d'être malin, de jouer à l'Argentine un petit peu. Et ça paye ce soir, on est super heureux. Il faut savoir vraiment gérer les temps forts et les temps faibles. D'autant plus qu'on a voilà, ce carton jaune, forcément il fait mal à la... plus que mal à la tête, il fait mal au corps. Parce qu'on est obligé de se dédoubler. Mais voilà, on est resté soudés, on est resté malin. Et Toto qui marque cet essai à la fin, c'est, voilà, c'est ce côté malice qu'on attendait de lui et c'est vraiment top.
En demi-finale, dans la nuit de demain à dimanche, Paulin Riva et ses coéquipiers affronteront l'Afrique du Sud, les Springboks, tombeurs de la Nouvelle-Zélande 14-7. Dans l'autre demi, les Fidji joueront contre l'Australie.
Et puis en football, les Françaises de l'équipe de France donc, se sont fait très peur face à la Colombie.
À la mi-temps, les Bleus menaient 3-0, un doublé de Marie-Antoinette Katoto et un but de Kenza Dali. Mais en seconde période, catastrophe, elles ont encaissé 2 buts en 10 minutes. Héroïques défensivement en toute fin de match, les coéquipières de Wendy Renard se sont finalement imposé 3-2. On écoute la capitaine des Bleus.
C'est vrai qu'on se met le feu un peu seul. Une première mi-temps complètement maîtrisée, je pense qu'on mérite de marquer même plus de buts. Et je pense que, comme je disais à Eugénie, je pense qu'on a tellement donné en première mi-temps que peut-être en début de deuxième, on a manqué beaucoup d'agressivité, beaucoup de rythme. Et je pense que quand on a une équipe comme ça en face, il faut pas, même à 3-0, c'est une équipe qui lâche jamais, donc on s'est fait peur, mais le résultat il est qu'on a pris 3 points, donc on va retenir ça, mais il faut pas reproduire les mêmes erreurs.
Prochain match pour les joueuses d'Hervé Renard, ce sera lundi matin à 6h contre le Canada.
Et puis Léo, un mot de handball. Les joueuses d'Olivier Crumble se sont elles aussi imposées.
Une victoire 31-28 contre la Hongrie, grâce notamment au 6 buts de la capitaine Estelle Enzemenko. Les Françaises rejouent lundi matin à 6h contre les Pays-Bas. Et un petit mot sur les hommes aussi qui seront sur le parquet dimanche face au Danemark. Un choc à suivre dès 6h.
En route pour Paris, découvrez les athlètes calédoniens sélectionnés pour les Jeux Olympiques avec le CTOS, l'Agence Nationale du Sport et la BNC.
En route pour Paris, comme depuis le début de la semaine, pour entendre ces sportifs calédoniens qui sont sélectionnés pour les JO, après Bassam Aouem, Yole Niengo, Nicolas Goyard et Emma Terrebo, on termine aujourd'hui, Léo, avec le nageur de 25 ans, Maxime Grousset.
Et oui, Maxime Grousset qui tentera de décrocher plusieurs médailles d'or lors des Olympiades de Paris, en 50 et 100 mètres nage libre, en 100 mètres papillon, mais aussi en relais 4 fois 100 mètres. Il avait seulement 5 ans lorsqu'il a appris à nager dans les eaux du Pacifique Sud, avant d'intégrer à 9 ans le cercle des nageurs de Nouméa. Quelques années plus tard, à 16 ans, il quitte sa famille et sa terre natale pour poursuivre son rêve de devenir nageur professionnel. Il rejoint donc la métropole et s'installe à Amiens. Dans le Nord, il suit un entraînement bien plus exigeant qu'en Nouvelle-Calédonie, avec notamment musculation et préparation physique. Maxime Grousset a rapidement gravi les échelons en devenant champion de France, champion d'Europe et enfin champion du monde en quelques années. sur du 50 mètres ou sur du 100 mètres, en nage libre ou en papillon. Maxime Grousset sait tout faire.
Ouais, en fait, de base, je fais du 50. Alors, je suis arrivé à Amiens, je faisais du 50, et c'est Michel qui a dit « Bon, tu es un nageur de 100 mètres. » Bah, j'ai écouté, hein, Michel Chrétien, il a raison, donc je me suis mis au 100 mètres, et c'est vrai que j'ai des bonnes qualités de 100 mètres. Enfin, il y a des choses à travailler, et j'aime bien me diversifier aussi.
En 2017, un an seulement après son arrivée en métropole, il remporte son premier titre national avec le relais 4x100 mètres nage libre. L'année suivante, en 2018, nouvelle victoire sur le 4x100 mètres nage libre. Mais au championnat d'Europe de Glasgow, cette fois, en 2020, il décroche son premier titre individuel lors du championnat de France sur 100 mètres. Il participe en 2021 à ses premiers Jeux Olympiques à Tokyo, des Olympiades sans médaille, mais qu'importe, le principal était ailleurs. Il a prouvé qu'il était capable de rivaliser au plus haut niveau.
En fait, il n'y a pas le moment où j'ai besoin de retrouver la motivation, j'ai juste besoin de souffler un peu. Après les Jeux de Tokyo, donc je fais quatrième et ça me donne juste la rage. J'ai envie de reprendre très vite, donc il fallait quand même que je souffle un petit peu pour bien reprendre. Et en fait, ça a plutôt bien marché, même si ma saison précédente, quand je reviens, elle n'était pas terrible en termes d'entraînement. En fait, j'ai pas pu bien m'entraîner et en fait, j'ai quand même pu bien performer. Et on peut y arriver finalement, mais. Enfin voilà, c'est même s'il y a des péripéties durant l'année, je pense que quand on est prêt pour l'événement, on est prêt.
Les années suivantes, ses records personnels tombent les uns après les autres jusqu'à atteindre pour l'instant, bien évidemment, l'apogée de sa carrière. Lors des championnats du monde 2023, il s'adjuge l'or sur le 100 mètres papillon avec, à la clé, mais c'est presque anecdotique, un nouveau record de France.
C'est vraiment le devoir accompli et le palier supplémentaire. Le palier supplémentaire, c'est l'or. J'avais jamais fait une médaille d'or. Voilà, je l'avais jamais fait tout seul. J'avais jamais eu ma Marseillaise tout seul. Et en fait, c'est vraiment quelque chose d'un peu spécial. J'ai eu un peu de mal à prendre toutes ces énergies en pleine figure. Et en tout cas, j'ai profité un maximum. Il y a tout qui change entre guillemets parce qu'en fait, il y a un nouveau statut. Ça veut dire que je suis plus vice-champion du monde. Je suis champion du monde. C'est un palier et après je vais pas me reposer sur mes lauriers parce que j'ai d'autres objectifs bien sûr.
D'autres objectifs effectivement et pas des moindres, des médailles et des titres, pourquoi pas aux Jeux Olympiques. Et quoi de mieux comme préparation que les championnats de France. Le mois dernier à Chartres, il a remporté 3 médailles d'or sur le 50 et le 100 mètres papillon, mais aussi sur le 100 mètres nage libre. Maxime Grousset n'a plus qu'une seule chose en tête, les Jeux Olympiques à la maison.
En France, moi, j'ai vraiment très hâte de vivre ça. Je pense que ça va être énorme. Il y aura une ambiance de folie. Et ça me galvanise. Donc, j'ai très hâte de ça. Mais à part ça, il va falloir se préparer, je pense, sereinement et pas trop penser à ce qui va se passer après, si ça marche pas ou si ça marche, etc. Je pense juste qu'il va falloir faire les choses comme il faut et voilà, rester serein dans sa préparation, je pense que c'est le maître mot.
On espère qu'avec le soutien du public français, Maxime Grousset ira chercher de nouveaux records et collectionnera les médailles olympiques, d'or de préférence. La première qu'il peut glaner, c'est dimanche avec le relais 4x100 mètres nage libre. La finale est à suivre dès 6h44, heure de Nouméa.
En route pour Paris, découvrez les athlètes calédoniens sélectionnés pour les Jeux Olympiques avec le CTOS, l'Agence Nationale du Sport et la BNC.
Et tout au long de cette quinzaine olympique, vous le savez, nous vous proposons de jouer sur Radio Rythme Bleu.
De mémoire de jeu avec les stations chez les Pacifiques.
Avec votre carte fidélité, toujours des remises sur le carburant et plein d'autres avantages.
De mémoire de jeu pour gagner chaque jour un bon carburant de 5000 francs grâce à notre partenaire. Le principe est simple, chaque jour dans ce journal et dans celui du matin, nous vous proposons une question sur l'histoire des Jeux Olympiques et ceux qui en ont écrit la légende. Vous envoyez votre réponse au 3146, vous avez jusqu'à 17h pour le faire. À 17h, tirage au sort parmi les bonnes réponses et dans le journal du soir, vous aurez la réponse à la question du jour et bien sûr le nom du gagnant. C'est donc parti pour ce premier jeu avec notre première question. Parmi ces athlètes françaises, laquelle a remporté le plus de médailles d'or aux JO? Si c'est Laura Flessel, vous tapez JO1. Si c'est Félicia Ballanger, vous tapez JO2. Si c'est Laure Madedou, vous tapez JO3. et vous envoyez votre réponse au 31-46. Voilà, vous avez donc jusqu'à 17h pour envoyer votre réponse. C'est l'heure où aura lieu le tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et je vous rappelle que le gagnant remportera un bon d'essence de 5000 francs offert par notre partenaire.
Dans vos stations Shell et Pacifique, gagnez 3 Toyota Hilux, 730 cartes de carburant à 15 000 francs et profitez tous les jours de nos offres fidélité et des bons plans en magasin. Rendez-vous vite dans vos stations Shell et Pacifique et n'oubliez pas votre carte de fidélité.